conférence privée du noviciat par le père Philippe à Saint-Genard le 3 mars 1989.
On verra une autre fois réponse à certaines questions. Et comme je suis obligé de partir cet après-midi, ce dernier cours est donc sur le point de vue de la sagesse de la croix que nous avions commencé la dernière fois. C'est un petit peu comme le testament de Saint Jean, n'est-ce pas ? Il faut un peu le regarder comme ça. Quand nous disons et que nous demandons à Saint Jean d'exercer sur nous sa paternité, on demande donc à Saint Jean de nous livrer le secret de son cœur. C'est ça qu'on demande à un père. Il demande de nous communiquer ce qui était la grande ligne de fond de toute sa vie. Ce qui souvent est donné au point de départ d'une manière un peu confuse et qui se précise. Vous voyez, la prophétie du vieillard Siméon pour Marie. Et la prophétie du vieillard Siméon est sûrement comme la grande ligne pour toute la vie de Marie. Et elle ne comprendra pleinement qu'à la croix. C'est presque toujours comme ça que Dieu agit. C'est le propre du mystère de la foi et de l'espérance. C'est qu'on accepte de marcher sans avoir compris. Ce qui est très difficile pour un homme. Une femme, ça va encore, mais un homme, c'est très très difficile. Mais oui, la vie religieuse est plus difficile pour un homme que pour une femme. C'est vrai, ça. À cause de ça. Parce qu'au fond, on veut vivre pleinement et totalement du mystère de la foi et de l'espérance. Sans perdre de temps. Je dis, c'est la voie express. On ne veut pas perdre de temps. C'est pas une nouvelle sainteté. C'est pas une sainteté spéciale, pas du tout. Une sainteté initiatique, comment dire aujourd'hui. Non, c'est la même sainteté. C'est la sainteté de tous les chrétiens. Mais les moyens sont plus rapides, plus directs. Et ça, on le sent très fort. Vous le sentirez au bout d'un an, deux ans, trois ans, mais ça se sent très vite. Et quand on retrouve des amis, par exemple, qu'on a beaucoup aimés avant d'entrer, et qu'on retrouve au bout de deux ans des religieuses, on voit que on reste amis profondément, et même plus qu'avant, mais il y a un rythme de vie qui est le nôtre, qui est beaucoup plus rapide. Et c'est vrai, la vie religieuse implique ça. C'est une espèce de... Ce point de vue-là, on est tout à fait moderne. C'est la rapidité. On comprend l'accélération. C'est le TGV du Seigneur. Alors, allez rapidement. Et là, évidemment, quelques-uns manquent de souffle. On doit s'arrêter. Non, pas du tout en disant je vais prendre un autre train. Non, 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 c'est le même, mais un peu moins vite. Parce qu'on perd pédale. C'est normal. Au bout de deux ans, trois ans, c'est normal. C'est comme ça partout, vous savez. J'ai connu ça. Au bout de trois ans de vie religieuse, on est un peu. Avant, on a des réserves, vous comprenez. Puis subitement, on s'aperçoit qu'on n'a plus de réserves. Parce qu'on n'a pas fait attention. C'est normal, hein, la prudence s'acquiert avec le temps. Et la prudence religieuse n'est pas la même que la prudence de quelqu'un qui vit dans le monde. Mais quand on parle toujours du laïc et du religieux, on devrait parler de la prudence. Je crois que c'est là où on saisirait mieux. Parce que Le religieux, c'est la voie express. Ça ne peut pas être autrement. Si vous êtes religieux pour prendre une voie lente, non, non, non. Le gros camion qui souffle. Et on n'a pas, on a une peine à s'y mettre, hein. C'est sûr ça. Alors au début, tout feu, tout flamme. Dans les premiers 6 mois, 1 an, ça dépend ça du reste pour chacun. Ça dépend des réserves de chacun. Des réserves biologiques, psychologiques. Heureusement qu'on vous nourrit intellectuellement, mais la nourriture intellectuelle, pour certains, elle n'est pas immédiatement assimilable. Et on en est parfaitement conscient. Alors, si elle n'est pas immédiatement assimilable, elle reste au-dessus de l'estomac. L'estomac spirituel et intellectuel. Je vous ai un certain intime. Je ne sais pas, mais j'ai un poids, je ne comprends plus rien du tout. C'est ce qui se passe. C'est simplement, c'est pas entièrement assimilé. Il faut faire du compte-gouttes pour que ça s'assimile. C'est vrai. Saint Thomas n'hésite pas de dire « alius genus vitae », un autre genre de vie. C'est ce qu'il dit dans son langage, métaphoriquement, voix express. Parce que c'est une voix qui fait que tout doit aller plus vite. Et toutes les vous voyez, les difficultés d'aujourd'hui par rapport à la vie religieuse viennent de ça. Alius vitae, genus vitae, un autre genre de vie. Si on n'a pas l'expérience interne de la vie religieuse, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Parce que ça nous prend totalement. Vous voyez ? C'est le propre, je crois, de la vie chrétienne. C'est pas seulement des moyens différents. C'est tout un ordre de ces moyens. Et qui sont conjoints à notre fin. Mystère de l'incarnation. C'est pas des moyens lointains. C'est des moyens lointains, ce serait très vite différent. Les moyens sont les conseils évangéliques. Et les conseils évangéliques font partie essentielle de la vie chrétienne. Mais les conseils évangéliques, dans la vie chrétienne, ordinairement, sont rejetés pour plus tard. Oui, tous les chrétiens qui sont dans la dernière partie de leur vie, devraient mener une vie pleinement évangélique. Ils ont été mêlés au monde pendant un certain temps, et puis après, je crois que c'est ça que le Saint-Père comprend aujourd'hui, la seconde évangélisation. Or, la vie religieuse nous met tout de suite dans la seconde évangélisation, immédiatement. Du jour même où on demande d'entrer dans la communauté, on se met immédiatement à ce rythme. On vous laisse quand même 2 mois pour regarder. 2 mois. Regardez, non pas la vitrine, parce que c'est pas très beau, mais regardez quand même, en étant dedans. Puis 2 mois, on vous dit, est-ce que vous êtes d'accord? Parce que 2 mois, on a quand même la petite expérience. Est-ce que vous êtes d'accord d'entrer? Je crois que c'est très sage. Puis alors on entre. On n'a pas encore l'habit. On n'a qu'un mini-habit. S'est posé la question de savoir si ce mini-habit suffisait pour aller voir le Saint-Père. Mais c'est quand même très important. Parce que quand il n'y avait pas d'habit, on voyait Stanislas. Et la communauté, lui. On lui disait oui, on lui disait oui. Mais. Il aurait pu en avoir un autre. Tandis que là, maintenant, un mini-habit, c'est quand même suffisant, n'est-ce pas ? Surtout si on met le casque au-dessus, alors c'est... Là, à ce moment-là, ça peut commencer à... Il faut prier pour ça. Que les traditions demeurent. C'est tout à fait positif, du reste, parce que on sait bien qu'il ne peut jamais donner décision avant la dernière minute. Alors, transporter toute la communauté là-bas, tout le noviciat, très bien. Dans un air, voilà le noviciat. Il y en a auxquels les plumes sont encore très petites, puis il y en a d'autres qui sont quand même un peu plus grandes. Il faut prier pour ça, parce que c'est quand même une grâce du bon Dieu et de notre Seigneur. C'est vrai, c'est quand même assez exceptionnel. Hein. C'est un père puissant pour le Latran, parce que c'est son séminaire. Alors il va chaque année, de sorte que les séminaristes du Latran ont le privilège de voir le Saint-Père tous les ans. Nous avons pris une petite porte que l'Esprit Saint a permis pour voir aussi le Saint-Père pendant la semaine sainte. Alors, il faut s'y préparer, demander au Seigneur s'il veut bien. Mais c'est accidentel, hein, vous comprenez bien, ça ne change rien à notre vie religieuse, hein, c'est accidentel. Changement de lieu, c'est pas grand-chose. Ce qu'il faut, c'est comprendre cette voie express dans laquelle Dieu nous engage, sous la paternité de Saint Jean. Ça, c'est tellement important, de découvrir cette paternité de Saint Jean. Évidemment, là, on n'a pas une audience auprès de Saint Jean, une audience auprès de Pierre, mais pas de Jean. Parce que Jean est toujours caché. De toute façon, tout l'intérieur. Alors l'audience auprès de Saint Jean, c'est dans l'intériorité. Mais on doit découvrir cela. Et si on va auprès de Pierre, c'est pour mieux connaître Jean. Et en connaissant Jean, on est mieux Pierre. Toujours. Indispensable. Inséparablement lié. La paternité de Saint Jean, ça doit se découvrir progressivement comme celui qui a vécu le mystère de la croix. Il est quand même le seul apôtre qui a eu cette grâce unique dans sa vie. Et les autres n'ont pas vu. C'est pour ça que, comme testament, il nous dit ces dernières paroles de Jésus. Il ne répète pas les autres. Hein. C'est très curieux, comme le Saint-Esprit a conduit Saint Jean. Je crois qu'il l'a fait rencontrer Luc. Il a beaucoup donné à Luc. Ça, c'est sûr. On le verra pleinement dans le ciel, mais on peut déjà le deviner. Il a beaucoup donné à Luc. Mais il y a des secrets qu'il a réservés, qu'il ne pouvait pas donner. Et qu'il n'a pu donner qu'après l'Apocalypse. Donne pour ceux qui doivent vivre les derniers grands combats. Et l'Église, dès le point de départ, a vécu ces grands combats. Elle les vit d'une manière très spéciale maintenant. Et c'est, je crois, pour cela que l'Esprit Saint a voulu que nous soyons consacrés explicitement à Saint Jean. Que nous vivions explicitement de son mystère. Et le mystère de Saint Jean, c'est la croix, la grande montée vers la croix. Tout l'Évangile, la grande montée vers la croix. Et la croix qui est la porte dans le ciel, la gloire. Pour nous, la croix et la gloire, deux versants qui sont liés nécessairement. C'est par la gloire que nous entrons dans la croix. Et c'est par la croix qu'on entre dans la gloire. Et les deux sont vrais pour nous. On a besoin du mystère de la résurrection. le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Donc elle ne sert à rien. Et donc le sens profond de notre foi demande de regarder la résurrection. Dans tout le carême, on regarde la résurrection. Tout le temps. Mais on sait que regarder la résurrection, c'est accepter la croix. Et accepter la croix, c'est comprendre que la croix est pour nous sagesse. Sagesse de vie. Alors il faut ici, c'est une question qui a été posée, c'est pour ça que j'insiste un tout petit peu, sagesse de vie. C'est vrai qu'il y a les livres sapientiaux. Et vous savez bien, c'est intéressant les livres sapientiaux pour nous. Le père Braun, exégète de Saint Jean, qui aimait beaucoup Saint Jean, qui était professeur d'exégèse à Fribourg. Le père Braun, lui, était très sensibilisé comme exégète à l'influence des livres sapientiaux sur Saint Jean. Jean, c'est l'évangéliste qui a été le plus sous l'influence des livres sapientiaux. Ça, je crois, c'est facile à comprendre. Parce que la sagesse est contemplative. Et l'évangile de Jean est contemplatif. Et c'est très vrai qu'on retrouve dans l'évangile de Saint Jean toute une influence étonnante. Les livres sapientiaux, il ne faut pas l'oublier, c'est la rencontre voulue par l'Esprit Saint de tout l'héritage grec avec toute la grande tradition sémite. Mais le Saint-Esprit a voulu, avant qu'il y ait des théologiens, le Saint-Esprit a voulu qu'il y ait cette rencontre. Mais quand on parle du purisme sémite, c'est une erreur complète. Ça, c'est des visions. Quand vous regardez attentivement, vous voyez que le génie sémite et le génie de ce petit peuple, c'est sa capacité d'assimilation. C'est pour ça que je souris toujours quand on dit que c'est sémite. C'est idéologique, c'est Hegel qui a dit ça, qui a opposé Abraham aux Grecs. C'est dialectique comme opposition. Et c'est une vision de l'esprit, c'est pas comme ça du tout que Dieu a fait. Quand vous voyez Abraham, ben, il est quand même lié à toute la grande culture de Mésopotamie. À 75 ans, on porte sa culture, hein. Même s'il doit quitter ce lieu et aller autre part. Il est pétri de cette culture. Impossible autrement. Moïse, jusque 18 ans, auprès du pharaon, toute la culture d'Égypte. C'est quand même pas mal déjà. Mésopotamie, Égypte. Ça avait été le purisme sémite, hein. On a maintenant arrivé à une secte. Il n'y a pas d'influence étrangère, rien. C'est pas du tout ce qu'a fait Abraham. C'est pas du tout ce qu'a fait Dieu dans sa conduite. C'est vrai, il a purifié le cœur d'Israël avec une très grande exigence à l'égard de la religion. Pas de compromis au plan religieux. Du point de vue de la culture, au contraire, tout est assumé. Du point de vue de la religion, espèce de purification constante. Un seul Dieu, le monothéisme. Et ce Dieu est Père. Et parce que ce Dieu est Père, il réclame non seulement l'adoration, mais une intimité. Et l'alliance sera une alliance d'époux et d'épouses. Du prophète Osée au cantique des grands. Regardez une fois, c'est facile à faire, quand vous regardez le peuple d'Israël, et vous regardez toutes les influences, on a dit de la culture, que Israël a assumée. Et les livres sapientiaux, c'est l'introduction dans Israël de la psyché, l'âme. C'est intéressant pour nous. L'âme a pénétré à partir de là. Alors qu'avant, c'est le souffle de vie. Et là, c'est l'âme. Et cette influence de l'âme, elle vient de l'Inde. Et comme c'est curieux, Dieu a voulu en quelque sorte résumer toutes les grandes influences religieuses dans ce petit peuple, en purifiant toutes ces influences religieuses, progressivement. Alors, le livre de la sagesse, c'est vrai que la sagesse, Sophia, dans les livres sapientiaux, représente une personne. Mais c'est pas précis. Ce n'est pas le verbe. Ici, saint Jean a mis logos et non pas Sophia dans son prologue. Si saint Jean a mis le verbe et non pas la sagesse, c'est pour que nous comprenions mieux le dépassement par rapport aux sapientiaux. Quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus intérieur. C'est le fruit de la contemplation de Dieu, le Verbe, le Logos. Tandis que sagesse, c'est toujours lié à la création. C'est la source de la création. La sagesse, c'est aussi Marie. Tandis que vous ne dites jamais que le Verbe, c'est Marie. Jamais. Non, personne ne l'a dit. Et on ne doit pas le dire. Elle est la mère du Verbe. Elle est la mère du Verbe incarné. Et elle est elle-même sagesse. Tous les livres sapientiaux sont appliqués à Marie. C'est une contemplation admirable sur Marie, par les livres sapientiaux. Et les livres sapientiaux expriment à la fois la sagesse de Dieu comme créateur. C'est une préfiguration du mystère du Verbe. C'est l'ordre de la création. C'est une lumière. Mais ça reste quelque chose qui n'est pas précis, mais qui prépare le grand prologue de saint Jean d'une manière admirable. C'est vrai, ça prépare cette révélation ultime que vous avez dans l'évangile de saint Jean. Sur le mystère de Dieu, le Verbe et le Paraclet. La Sophia, la sagesse, elle va prendre pour nous, chrétiens, cette expression ultime dans le Christ crucifié. Le Christ crucifié est sagesse. Et dans notre vie religieuse, cette sagesse doit être ce qui, cette sagesse de la croix, ce qui nous apprend à vivre de la manière la plus forte du mystère du Christ. C'est son testament. Et Jean l'a reçu comme son testament. Et donc tout ce que Jésus vit sur la croix, on pourrait dire tout ce que Jésus vit dans la dernière semaine, je crois qu'on peut dire tout la dernière semaine. La dernière semaine, c'est la semaine de la sagesse. Et le repas à Béthanie, l'entrée triomphale à Jérusalem, cette rencontre de Jésus avec les Grecs, puis la scène. Tout le mystère de Jésus face aux autorités religieuses, face à Pilate, le mystère de la condamnation, le mystère de la croix, le mystère de la résurrection. La sagesse chrétienne comme fruit dernier le mystère de la résurrection, et le mystère de l'ascension, et le mystère de l'envoi de l'Esprit Saint. La sagesse chrétienne, c'est tout cela. Et il y a un moment tout à fait particulier. C'est justement le moment ultime de la vie du Christ. Ça aurait pu être autre chose. Puisque Jésus vient pour glorifier le Père et nous sauver. On peut dire que c'est l'intention profonde de Jésus. Et ça s'est exprimé admirablement dans la grande prière sacerdotale, dans la grande prière du Fils bien-aimé, chapitre 17 dans Saint Jean. Il vient pour glorifier le Père, donc le manifester. Ça, c'est la grande révélation. La révélation que seul le Fils bien-aimé peut faire. Puisque c'est une révélation d'amour. Seul le Fils peut nous révéler le Père. Et nous le révèle le Père en vivant cette filiation. Et en le révélant, il le glorifie. Puisqu'il le fait connaître. Il montre ce qu'il est. Jésus vient pour glorifier le Père et nous sauver. Or, il aurait pu nous faire connaître le Père et nous sauver autrement que par la croix. Je crois que ça, il faut bien, bien le comprendre. Parce que, constamment dans notre vie, il faut bien le dire, quand la croix se dresse, on a toujours envie de dire, mais pourquoi ça ? Jésus aurait pu nous sauver autrement. Il aurait pu nous sauver en étant un enfant modèle. Il l'a été. Il serait mort à 12 ans. Ça aurait été magnifique d'avoir un Dieu enfant. Et c'est vrai, les vertus de l'enfant Jésus, c'est admirable. Il aurait pu glorifier le Père par son obéissance d'enfant. De tout petit. Il aurait pu nous sauver par son adoration et sa prière et son obéissance d'enfant à Marie. C'était possible. Et Jésus mourant à 12 ans, en allant au temple, quand même, vivant la Pâque, et mourant après la Pâque, passé avec Jésus et Marie. Et on aurait pu donner ce conseil au Saint-Esprit. Ça aurait été quelque chose de tellement beau. La vie chrétienne aurait été cette vie d'enfance. Oui, on retrouve ces spiritualités-là. Ça se retrouve. Il y a une nostalgie d'enfance. Il ne faut pas dépasser 12 ans. Ce que me disait quelqu'un une fois, ils sont si gentils jusqu'à 12 ans. Et après, oh là là. C'est vrai, ils sont si gentils à 12 ans. Vous voyez, la vie chrétienne aurait été le maximum, le sommet aurait été Jésus de 12 ans. Non. Ça aurait pu être Jésus enseignant à 12 ans. Enseignant après à Nicodème. Jésus en enseignant glorifie le Père et il aurait pu nous sauver. Et il nous sauve. Il aurait pu être, par son enseignement, notre sauveur. Jésus aurait pu nous sauver en étant l'ouvrier, le menuisier, fils de Joseph, menuisier, artisan. Alors à ce moment-là, on aurait eu la mystique du travail. Le travail aurait été le lieu propre de la glorification la plus grande du Père. glorifie il notre salut. Il aurait pu faire ça. C'est pas du tout impossible. Il y a des spiritualités comme ça. Et bien, à un certain moment, et avec ça, on ne voyait que Jésus, ouvrier, c'était rien de plus grand. Il aurait pu terminer son pèlerinage uniquement en étant celui qui était le disciple de Joseph. Il aurait pu nous sauver en étant celui qui faisait des miracles pour guérir. C'est une vocation merveilleuse. L'infirmier qui guérit, qui a des dons extraordinaires. Il suffit qu'on le touche pour être guéri. Et puis il suffit qu'il te bénisse. Il aurait pu nous sauver comme prophète. Vous voyez, toutes les grandes activités du Christ étaient capables, parce qu'elles étaient infinies en amour, étaient capables de glorifier le Père et de nous sauver. Le Père a voulu que ce soit par la croix. Il faut bien voir ce choix spécial du Père. Parce que si on ne voit pas ça, on ne comprend pas du tout notre vie chrétienne. Et encore moins notre vie religieuse. Parce que si Jésus nous avait sauvés en étant menuisier, il n'y aurait pas eu la vie religieuse. Si Jésus avait voulu nous sauver en mourant, en offrant sa vie à 12 ans, il n'y aurait pas eu la vie religieuse. La vie religieuse, c'est parce qu'il y a la sagesse de la croix. Ça, impossible autrement. C'est le Père qui a voulu ça. Le Père, dans sa sagesse, a voulu que ce soit par la croix, et la croix telle qu'elle s'est présentée, telle qu'elle a été vécue par le Christ, que Jésus termine sa vie. Et que ce soit le moment voulu qui nous sauve. Mais il aurait pu nous sauver par la liturgie du temple, la grande fête de Pâques. On aurait continué de vivre cette commémoration en attendant le retour du Christ. Alors la liturgie à ce moment-là aurait été ce qui est le plus grand. C'est le mystère de la croix qui nous est communiqué, qui nous est donné comme le grand secret de la sagesse du Père. Mais ça, faut le comprendre pour soi et puis l'expliquer. Parce qu'on oublie trop que Jésus aurait pu nous sauver autrement. Et donc que c'est une volonté expresse du Père. Et que cette volonté expresse du Père a été acceptée pleinement par Jésus. Il l'a adoptée. Dès le point de départ, parce que Jésus le savait. Dans sa science infuse, Jésus savait que toute sa vie était ordonnée à la croix. Tu m'as formé un corps pour que j'accomplisse ta volonté. Alors, c'est vraiment dans l'obéissance que Jésus vit la croix. Je crois qu'il y a deux choses à regarder pour comprendre cette sagesse de la croix. Il y a à regarder pourquoi le Père a voulu que ce soit par la croix. Et pourquoi le Père a voulu que ce soit dans l'obéissance. Est-ce que ça aurait pu être l'initiative du Christ? Non, c'est dans l'obéissance. Alors, pourquoi la croix? croix, vous savez bien, c'est une complexité. Parce que c'est une lutte. C'est la lutte à son paroxysme. Il y a l'agonie, la lutte intérieure. Avec ce maximum de tristesse. Mon âme est triste à en mourir. Ça, c'est une tristesse. Et ça fait partie du mystère de la croix, l'agonie. Il y a cette solitude de Jésus. La vie chrétienne implique une solitude. Et la solitude de l'agonie, où Jésus est seul, il y a l'ange consolateur. Pourquoi le Père a-t-il voulu cela ? La tristesse, la souffrance, flagellation, crucifixion. Pourquoi le Père a-t-il voulu cela ? Pour que la croix existe, il faut des bourreaux. Pour que la croix existe, il faut une condamnation. Manifestation de l'amour qui se fait à travers l'état victimal de Jésus. Il est l'agneau. Et c'est vrai, c'est ça qui domine. Et Jean le montre tout de suite. Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu. Et toute la grande prière. avec Abraham. Tout de suite, le petit Isaac, c'est l'agneau. Évidemment, à la dernière minute, on mettra l'autre. Il sera sauvé parce que c'est une préfiguration. Mais le véritable agneau, c'est Jésus. Celui qui porte l'iniquité du monde. Alors, vous voyez, dans la sagesse du Père, l'amour se manifeste de la manière la plus éclatante. En assumant ce qu'il y a de plus contraire à l'amour, la violence, la mort, la tristesse, la souffrance. C'est ce qu'il y a de plus contraire à l'amour. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne voulez pas qu'il souffre. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne voulez pas qu'il soit triste. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne voulez pas qu'il meure. Quand vous aimez quelqu'un, vous voulez soit parfaitement épanoui. Et ici, le Père, c'est une volonté expresse de Dieu. Le Père veut que Jésus soit l'agneau véritable, qui porte l'iniquité du monde, toutes les conséquences. L'amour soit pleinement manifesté, pour que l'amour soit victorieux de toutes les conséquences du péché, et que cette victoire de l'amour nous soit manifestée, nous soit montrée. Il est l'agneau entièrement offert, brûlé par l'amour. Entièrement offert au Père comme victime de propitiation, comme victime d'amour pour nous sauver. Et ce lien entre l'amour et la souffrance, entre l'amour et la tristesse, entre l'amour et la mort, c'est cela que Dieu dans sa sagesse, que le Père dans sa sagesse a uni. Il a fait cette alliance, et c'est l'alchimie divine ça. Il a fait cette alliance entre la tristesse, la souffrance et la mort. Cette alliance avec l'amour. Et par là, l'amour est manifesté d'une manière unique. Seul l'amour divin peut assumer la mort, transformer la mort et lui donner un nouveau sens. Seul l'amour divin peut transformer la souffrance et lui donner une nouvelle signification. Seul l'amour divin peut assumer la tristesse, surtout cette tristesse qui vient du péché, et lui donner un sens nouveau. C'est, je crois, la première chose qu'on doit comprendre dans le point de vue de cette sagesse de la croix. C'est cette volonté du Père qui fait cette alliance. Vous voyez, pour nous, concrètement, c'est très important de saisir cela. C'est que dès qu'il y a quelque chose qui nous contrarie, une petite mort psychologique, vous voyez bien, ça vient un petit projet d'aller à telle ordination, parce que c'était un ami, c'était la rencontre avec tel évêque, c'était la rencontre d'autres amis. C'est puis ce petit projet magnifique. C'est vrai, c'est beau.
aller à l'ordination en plein milieu de votre officier. C'est quand même très, ça fait du bien, quoi. Petite porte ouverte pour les petites colombes qui peuvent se reposer un tout petit peu pendant ce temps-là. Prendre un peu l'air. Et puis vous aviez dit à vos amis, écrivez au père maître, ça fera bien. Et alors, le père maître a reçu des lettres. Et puis, le père maître, il fait briller. Le résultat de la prière. Il vous dit non, il vaut mieux rester ici. Petite croix quand même. C'est pas énorme comparativement à la croix du Christ, mais c'est quand même une petite croix. Comment peut-on assumer ça dans l'obéissance? On ne peut l'assumer que par un amour plus grand. C'est pas oui autrement. C'est pas en raisonnant, en disant bah oui, il a raison, oui, c'est ça. Au point de vue de la prudence, c'est vrai, ça va me disperser. Ça. Tout ça, c'est des motifs très, très secondaires. Il y a beaucoup d'autres choses qui vous distraient. C'est quand votre imagination va à la campagne, ça vous distrait bien plus. Et là, hein, pendant votre raison, ça bat la campagne. Il faut dire, si je le permets, il se trompe. Eh bien, ce jour-là, je ne penserai qu'à ça. Alors, vous voyez, c'est une distraction bien plus grande. Il se trompe. Ça ne m'aurait pas distrait du tout. Ça m'aurait envoyé, au contraire, une amitié réelle, profonde. Et j'aurais eu des grâces. M'enfoncer davantage dans l'oraison, puisque c'est la grâce de l'ordination que j'aurais vécu avec mon ami. Si vous recevez la croix réellement, c'est dans l'amour. On ne peut, quand un petit projet ou un grand projet est supprimé, le vivre dans la sagesse de la croix. C'est-à-dire, à travers cet amour, et comprendre que Dieu me demande ce sacrifice parce qu'il m'aime, pour entrer plus profondément dans le mystère de la croix du Christ. Autrement, je ne peux pas. Vous voyez, tout ce qui est négatif dans notre vie, et l'obéissance quelquefois apparaît comme négative, hein, c'est une obéissance comme ça, par rapport à un précepte négatif. Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre. Et dans tout noviciat, puisque c'est un petit jardin, il y a un fruit de l'arbre. Tu ne mangeras pas de cela. C'est négatif. Pour que ce soit positif, il faut un très grand amour et le regarder dans la lumière même de Dieu. Et non pas le regarder à contre-jour. Vous êtes intelligent pour Dieu et pour le Christ. Intelligent par rapport à tel acte d'obéissance. Il faut que notre prudence soit éclairée par le don de conseil qui tout de suite nous met dans la lumière de la croix. C'est le propre du don de conseil. C'est toujours tout regarder dans la lumière de la croix. Alors, dès que vous regardez ça dans la lumière de la croix, vous dites, ah bon, c'est merveilleux. C'est merveilleux, je comprends. Dieu m'accule à ça pour que j'aime plus, pour que je me dépouille. Ces amitiés étaient encore trop fortes, trop humaines. C'est pas comme hein, Dieu, durant le noviciat ou après, donne une très grande fatigue. On est obligé de se reposer. Et en plein milieu du carême, alors qu'on avait voulu que ce carême soit un temps pénitent, d'austérité, et voilà, que Dieu nous demande de nous reposer. C'est en contradiction avec la croix. La croix, c'est pas un repos, c'est pas une détente, c'est pas ça. Et Dieu nous demande de nous reposer. Acte d'obéissance. On peut dire, verra, ça ne me repose pas du tout. Je continuerai à ne pas vouloir me reposer. Donc, à ce moment-là, on n'accepte pas cette lumière de Dieu, qui est évidemment en contradiction avec nos petits projets, mais qui nous demande de dépasser nos petits projets pour entrer dans son mystère d'amour. Son mystère d'amour nous demande de nous reposer en vue d'un combat beaucoup plus profond ensuite. Il faut d'abord accepter ce petit combat, nous reposer. C'est pas trop. Quelqu'un qui veut se donner. Oui, il faut bien comprendre que l'amour que le Christ nous manifeste à travers le mystère de la croix réclame de nous ce dépassement constant. la mort politique, la mort religieuse, condamnée par les grands prêtres, comme un blasphémateur, rejeté par tous, tout le peuple. Et regardez attentivement, toutes les morts sont présentes. Toutes les morts. Et Jésus a tout porté dans un amour victorieux.